Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. L'infertilité concernerait 80 millions de personnes dans le monde. Les pays en développement sont beaucoup plus souvent confrontés à ce problème d'ailleurs qu'on l'imagine. Multiplication des maladies sexuellement transmissibles, tabac, médicaments, substances toxiques environnementales, stress, nouveaux modes de vie. En fait, les causes de la stérilité sont multiples et variées. Elles concernent aussi bien les hommes que les femmes. D'ailleurs, dans plus d'un tiers des cas, l'infertilité est en fait masculine. On estime qu'un couple sur 6 ou 7 est confronté à des difficultés pour réaliser son désir d'enfant, mais des solutions existent grâce à l'assistance médicale à la procréation, fécondation in vitro, don d'ovocytes, don de sperme. Cependant, cette PMA tourne parfois un peu au parcours du combattant. Il faut savoir que dans les pays occidentaux, les taux de succès des techniques d'assistance à la procréation tournent seulement autour de 15 à 20%. Alors, quelles sont les causes de ces problèmes d'infertilité? Quand consulter? Quels sont les traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Sylvie Epelboin, qui est gynécologue obstétricienne, médecin de la reproduction au sein du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard à Paris. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Monique Onomojong, qui est gynécologue à Douala, au Cameroun. Docteur Sylvie Epelboin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour répondre à mes questions, mais je dirais aussi, surtout principalement aux questions des auditeurs qui sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. Juste une précision par rapport à ce que j'ai dit en début d'émission, ces problèmes d'infertilité touchent aussi les hommes et on a peut-être eu tendance pendant un certain temps à l'oublier dans le grand public.
Tendance pendant des siècles à rendre la femme responsable de l'infertilité, ce qui entraînait des situations dramatiques, de répudiation. Et la répudiation, c'est pas uniquement la souffrance affective, c'est aussi quelqu'un de répudié, c'est quelqu'un d'isolé socialement. Et on a aussi pensé que les femmes pouvaient mourir isolées quand elles étaient répudiées, alors que le problème d'infertilité n'était pas de leur fait. Disons que c'est dans un passé lointain, on va essayer de se dire ça. Effectivement, tel que vous l'avez dit, il y a à peu près un tiers des infertilités qui sont liées à un problème de fertilité masculine, un tiers féminine, et dans un bon tiers, ce sont les deux. C'est-à-dire que la fertilité de l'un potentialise la fertilité de l'autre, et on peut dire inversement que un homme pas très fertile, s'il a une femme fertile, et ben il faudra attendre quelques temps pour avoir un enfant, et réciproquement, mais ça marchera.
Alors par contre, quand il y a des problèmes dans les deux, justement, c'est là que ça devient un peu plus compliqué.
Voilà.
Ça, c'était le premier chiffre que j'avais donné sur les problèmes d'infertilité masculine. Le deuxième, qui est certes la procréation médicalement assistée, ça donne de fabuleux résultats, mais il faut pas non plus avoir trop d'espoir là-dedans, ça marche pas toujours.
Alors, beaucoup de facteurs interviennent, on va pas du tout avoir le temps de parler de la procréation médicalement assistée en général. Il faut savoir de quoi on parle. Vous avez parlé de 15 à 20% de succès. Quand vous dites 15 à 20% de succès, c'est 15 à 20% de naissance d'enfants vivants par tentative débutée. Or, on peut essayer, même chez des gens qui n'ont pas beaucoup de chance, et puis arrêter en cours de route. Donc là, on va avoir un taux de succès par tentative. On peut faire une ponction ovarienne pour avoir des ovules. On aura des ovules, mais pas d'embryon. Donc il y a le taux de grossesse par ponction, mais il n'y aura pas eu de transfert d'embryon. Si on regarde les taux de succès par transfert d'embryon et le nombre de grossesses débutantes, on est plutôt aux alentours de 35%. Mais bien évidemment, ce qui intéresse les gens, c'est les enfants qui sont nés et qui vont bien.
C'est le bout du compte, c'est le résultat. On a Fatou qui nous appelle de Bamako au Mali. Fatou, bonjour.
Bonjour docteur.
On vous écoute Fatou.
Bonjour madame.
Bon, mon problème est le suivant. Je souffre d'une infertilité secondaire. J'ai un enfant de 13 ans, mais je n'ai jusque-là pas réussi à en avoir un second. J'ai effectué tous les examens, le stéro, la cilio-diagnostic, le test bleu, etc. Mes trompes ne sont pas bouchées. J'ai fait plusieurs traitements pour induction d'ovulation avec du clonide, du décapeptile, des injections, du gonal F et jusque-là rien. Selon le spermogramme de mon conjoint, il a une efficacité de 60% de chance de fécondation. Quel autre type de traitement pourriez-vous me préconiser, docteur ?
Alors, docteur Appelmoi, je pense que ce serait bien que vous nous expliquiez d'abord tous les examens qu'a subi Fatou qui permettent de savoir s'il y a un problème ou pas. Parce que ça, c'est important qu'on comprenne.
Bien sûr, c'est toujours très intriguant d'avoir un enfant et de ne pas pouvoir en avoir un second. Alors, avant d'expliquer ces examens, on peut dire qu'il peut y avoir parfois, en fonction du mode d'accouchement, des complications de l'accouchement qui peuvent être, mais là, Fatou ne nous dit pas que c'est le cas, les complications après une césarienne, ou bien une infection de suite de couches qui peut du coup grever le pronostic de fertilité ensuite. Sinon, eh bien, comme dans la vie, il peut y avoir différentes choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Tous les examens demandés, j'imagine qu'on a fait un bilan hormonal pour voir si la fonction ovarienne marchait bien, s'il y avait une ovulation régulière. On y reviendra sûrement tout au cours de l'émission. La celluloscopie, c'est un examen sous anesthésie générale où on introduit une optique lumineuse au niveau du ventre et on voit donc les rapports entre les organes, l'utérus dans lequel se développerait le bébé, les trompes, là où se fait habituellement la rencontre vulve-spermatozoïde. On peut voir qu'il y a éventuellement des adhérences, séquelles d'une inflammation dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que des adhérences ? Il faut un petit peu se le représenter comme du papier cellophane qui entourerait la trompe, qui pourrait la plier et qui empêcherait du coup le pavillon de la trompe dont c'est la fonction de récupérer l'ovule au moment de l'ovulation. On peut voir qu'une trompe est bouchée, c'est-à-dire que son pavillon est complètement replié. Donc voilà pour la celluloscopie. Et
Le test au bleu.
Alors le test au bleu, c'est en cours de celluloscopie ou par le col de l'utérus, on injecte un produit et on voit donc dans le ventre ce produit qui passe, ce qui témoigne de la perméabilité des trompes et dire que ça n'est pas bouché. Alors Fatou ne le dit pas, elle a sûrement eu une hystérographie qui est une radio qui permet aussi de voir le passage au niveau des trompes. Et puis monsieur a eu un spermogramme. Alors l'efficacité de 60% de chance de fécondation, c'est pas un résultat de spermogramme, ça, je pense que c'est l'appréciation du médecin. Je pense qu'on va y revenir dans une question ultérieure, donc je n'insiste pas. Bref, tout a l'air d'aller bien. Alors, tout a l'air d'aller bien.
Et ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. Donc ça arrive. C'est difficile, comme toujours, à distance, de pouvoir porter un diagnostic, mais il y a effectivement des cas où tout a l'air d'aller bien chez la femme, tout a l'air d'aller bien chez l'homme. Et donc, ce qu'il faut préconiser, c'est une fécondation in vitro, parce qu'en fécondation in vitro, on va finalement avoir sous les yeux, si je puis dire, toutes les étapes de la fécondation. Donc, la femme a une stimulation hormonale par un des produits que Fatou a énuméré, mais à des doses un petit peu différentes, jusqu'au moment où il y a plusieurs follicules qui se développent sur l'ovaire. On va prélever ces follicules par voie chirurgicale, en passant par le vagin. On va récupérer les liquides folliculaires dans lesquels on va repérer les ovules, les mettre en fécondation avec les spermatozoïdes de l'homme récupérés le matin par donc recueil spermatique, par masturbation. Et les spermatozoïdes ayant été isolés du liquide séminal, et donc on va mettre en fécondation in vitro. Alors soit fécondation in vitro classique ou dans une
boîte
biologique.
On dit in vitro parce qu'on fait ça dans des petits tubes en fait, c'est ça hein?
Oui, c'est pas des tubes, hein. On fait pas des bébés tubes, on fait pas des bébés éprouvettes, on fait des bébés en boîte.
En boîte maintenant.
Ouais. Dans une boîte, on met l'ovule avec des spermatozoïdes et on voit si le lendemain, il y a une dans l'ovule, les deux noyaux, celui de l'ovule et celui du spermatozoïde, le noyau de chaque cellule. Ça s'appelle le stade zygote. Et ce n'est qu'à 48 heures qu'on voit apparaître la division de l'ovule s'il y a eu fécondation et développement ensuite, avec deux cellules, puis quatre, puis huit à trois jours, etc. Parfois,
et là,
si on soupçonne...
Et là, on réimplante dans l'utérus de la femme, c'est ça ?
Et là, on fait le transfert d'embryon, soit au deuxième jour, soit au troisième jour, soit dans certaines équipes, en le laissant évoluer jusqu'au moment de l'éclosion, c'est-à-dire un stade qu'on appelle blastocyste, que je nomme parce qu'on le trouve sur Internet et partout. Et puis, on peut également faire une fécondation in vitro par micro-injection. Quand on soupçonne que c'est l'homme qui serait infertile. Et donc, au lieu de laisser ovule et spermatozoïde se débrouiller tout seul, on prend un spermatozoïde dans une micro-aiguille, on franchit la membrane de l'ovule, on dépose le spermatozoïde, on retire l'aiguille, la membrane se referme. Et il y a donc possibilité ensuite des mêmes étapes. Donc, dans une histoire comme dans celle de Fatou, on aurait envie de dire qu'il faut faire une fécondation in vitro pour voir ces différentes étapes, et peut-être, s'il y avait suffisamment d'ovules, traiter la moitié en fécondation in vitro pour voir s'il peut y avoir fécondation, mais pour éviter l'échec et ne pas avoir d'embryon, peut-être la moitié des ovules serait micro-injectée de façon à être sûre d'avoir plus de chances d'avoir des embryons.
C'est ce qu'on ferait en France. Fatou, est-ce qu'on vous a parlé, justement, quand vous avez évoqué toutes ces complications avec votre médecin, de fécondation in vitro ?
Si, mon médecin aussi m'a préconisé de faire la fécondation in vitro.
Voilà.
Mais en Afrique, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Hein.
Non.
Moi, je n'ai pas dans mon pays...
Oui, je crois pas qu'il y en ait à Bamako. Peut-être que des médecins pourront nous appeler pour nous confirmer. Il y en a dans des pays limitrophes. On verra ce qui se fait, par exemple, au Cameroun. Mais effectivement, je pense qu'il n'y en a pas à Bamako.
Il y a des bons centres de fécondation in vitro, mais malheureusement, à l'heure actuelle, l'ensemble, peut-être que Monique Onojo nous dira le contraire tout à l'heure, mais il me semble que l'ensemble des centres sont des centres privés et qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de centres publics. Et c'est le problème financier qui fait souvent venir les gens ici.
Ce qui est intéressant, en tout cas, ce que vous expliquez sur Fatou, c'est que finalement, au bout du compte, quand on ne sait pas et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça ne marche pas, le conseil, au bout d'un moment, c'est quand même cette fécondation in vitro qui permet.
Il y a des choses qu'on ne comprend pas en médecine.
Et qu'on comprendra peut-être plus tard.
Et donc, la fécondation in vitro n'est pas un traitement de la cause, mais ça va permettre de sauter par-dessus l'obstacle en mettant en présence ovule et spermatozoïde qui ne se rencontrent peut-être pas dans la trompe alors qu'elle a l'air normale, mais peut-être que le fonctionnement des petits cils dans la trompe qui font se rencontrer ovule et spermatozoïde ne marche pas.
Peut-être qu'on voit pas
tout
encore.
Ou bien qu'il y a un problème du spermatozoïde qui a un souci pour pénétrer la membrane de l'ovule, et ça, il n'y a qu'en fécondation in vitro, sous l'œil du biologiste au microscope, que l'on voit cela.
Merci beaucoup Fatou, et bon courage à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle d'assistance médicale à la procréation avec le docteur Sylvie Epelboin, qui est médecin de la reproduction au sein du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard. Et on a Natacha qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Natacha, bonjour.
Bonjour, Priorité santé.
On vous écoute, Natacha.
J'ai 30 ans et j'essaie d'avoir un enfant depuis 2 ans. Et depuis ma puberté, j'ai eu à faire 3 avortements. Le dernier, c'était en 2009. Et depuis, en 2010, j'ai commencé à avoir les règles douloureuses et abondantes. Et aussi les douleurs après les rapports sexuels. Bon, après consultation et échographie, le gynécologue a décelé un myome, mais si petit que cela ne pouvait pas expliquer les douleurs. Et il m'a prescrit du luténil avec de l'antadis pour soulager la douleur. En 2014, il m'a prescrit Adépal qui m'a soulagée, qui a fait que mes règles n'étaient plus longues et je n'avais plus de douleur. Mais comme je voulais avoir un enfant, au bout de 3 mois, j'ai arrêté Adépal. En janvier, j'ai eu à consulter un autre gynécologue pour voir un autre diagnostic. Et là, il me dit qu'il pense à l'endométriose. Il faut l'IRM pour diagnostiquer, mais en Afrique, spécialement au Bénin, il n'y en a pas. Donc, il m'a demandé à faire l'hystérosphalangographie afin de voir si son diagnostic est bien de vérifier. Mes règles sont très irrégulières et j'ai du mal à savoir ma période de fécondité. Parfois, j'ai la glaire qui me souffle que je suis en ovulation. Bon, il y a des moments où je ne sens rien, donc je ne sais pas exactement quand est ma période de fécondité pour faire l'amour, pour que ça donne un enfant. Bon, ce que j'aimerais demander au médecin, c'est de savoir quel examen je dois faire pour savoir si je ne souffre pas de fertilité, si j'ai la chance d'avoir un enfant.
Docteur Sylvie Epelbois, alors beaucoup de choses dans l'histoire de Natacha.
Beaucoup de questions, Natacha. Alors, je vais vous le dire comment, de la même façon que je l'ai pensé en vous écoutant. D'abord, une question que vous ne posez pas, donc je vais commencer par répondre à celle-là, c'est-à-dire quel rapport éventuel entre l'infertilité de 2 ans, vos douleurs, et puis ces 3 avortements que vous avez eu à faire. Les avortements, quand ils sont pratiqués, j'imagine que vous parlez d'avortements avec un curetage utérin, parce qu'il y a aussi des avortements médicamenteux, mais s'il s'agit bien de curetage, il peut y avoir des conséquences qui sont des conséquences malheureusement infectieuses, avec une inflammation puis une infection qui, secondairement, va créer des adhérences dont je parlais tout à l'heure, et ces adhérences peuvent fixer les organes dans une position qui n'est pas habituelle, parce qu'habituellement trompe et ovaire sont libres dans la cavité du ventre, et donc quand vous marchez, quand vous faites du sport, quand vous avez des rapports, eh bien ça crée des douleurs. Donc je réponds d'abord à votre question douleur. Peut-être y a-t-il des adhérences qui ont succédé à 1 ou 2 des avortements.
Natacha, moi j'aurais juste envie de vous demander sur cette question des avortements, est-ce que vous avez pu les faire dans des conditions d'hygiène justement correctes? Parce que je ne sais pas quelle est la loi au Bénin, est-ce que c'est autorisé ou pas?
Non, c'est pas autorisé.
Et du coup, vous avez dit. Et je veux pas être indiscrète, mais du coup, vous avez trouvé un endroit pour faire ça de façon assez sûre?
Oui, j'ai trouvé un centre de santé et si. Il ne l'offrait pas à aspiration.
D'accord. Parce que ça, c'est l'autre problème, docteur Sylvie Pelboin, de nombreux pays qui interdisent l'avortement et du coup, c'est pas fait dans des conditions d'hygiène correctes.
Absolument. Donc, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'était à ça que je faisais allusion. Donc,
excusez-moi, parce que c'est important, parce qu'après, on va avoir des auditeurs qui vont nous dire, les avortements provoquent des problèmes d'infertilité. Si c'est fait dans des conditions correctes, par exemple, comme ça peut l'être fait en France, ça ne provoque pas de problèmes d'infertilité ou
si
ça peut quand même?
Si c'est fait dans des conditions correctes, ça on n'évite pas toujours l'infection. Tout dépend, par exemple, d'un avortement, un deuxième avortement, s'il y avait déjà eu un passé infectieux. Mais globalement, vous avez raison, avortement ne signifie pas stérilité ou douleur. C'est une hypothèse par rapport au passé que nous signale Natacha, oui, fait dans des conditions qui ne sont pas totalement optimales, il peut y avoir des séquelles, ou que les trompes soient bouchées, ou qu'il y ait des adhérences, et donc fertilité et douleur. Ça, c'est la première chose.
Après ça,
fibrome, je suis assez d'accord avec le premier gynécologue. Il y a un nombre très important de femmes, dont particulièrement les femmes africaines, qui ont des petits ou des gros fibromes. Ça ne les empêche pas d'avoir des enfants, sauf quand le fibrome se niche dans la cavité de l'utérus et qu'à ce moment-là, cela peut gêner la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'embryon. Alors, très bonne idée, l'endométriose suggérée par le gynécologue. L'endométriose, c'est la localisation anormale du tissu qu'on appelle muqueuse à l'intérieur de l'utérus. Donc, c'est l'endomètre qui va envahir un petit peu le tissu musculaire qui constitue le reste de l'utérus. Et donc, ça, c'est l'endométriose adénomyose, ou bien cette muqueuse va passer par les trompes, ou par d'autres phénomènes sur lesquels je ne m'étends pas, se greffer un petit peu partout sur l'appareil génital, ou sur le tube digestif, ou dans la cloison entre le rectum et le vagin. Et donc, ça entraîne des douleurs, et notamment des douleurs avant et pendant les règles. Donc, ça y ressemble beaucoup. Donc, vous avez eu comme traitement de l'antadis, c'est un anti-inflammatoire, c'est un traitement tout à fait classique contre la douleur, et de l'uténil, c'est donc de la progestérone, et un petit peu comme la dépale qu'on vous a donnée ensuite, c'est-à-dire une minifilule.
Je vais être obligée de vous interrompre, parce qu'il y a les informations, mais vous allez continuer à nous expliquer ça dans 3 minutes. Juste après les infos. Et surtout, Natacha, vous restez en ligne avec nous.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes d'infertilité avec le docteur Sylvie Épelboin, gynécologue obstétricienne, médecin de la reproduction au sein du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard à Paris. Et si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à appeler. Avant les informations, on était en ligne avec Natacha qui est à Cotonou au Bénin, qui est toujours d'ailleurs avec nous au téléphone. Elle nous expliquait qu'elle a 30 ans, elle cherche à avoir un enfant depuis 2 ans, ça marche pas. On a parlé pendant la première partie de l'émission de ces questions des avortements, des risques d'infection. On en était à la question de l'endométriose. Vous étiez en train de nous expliquer que d'abord, ça, c'est très douloureux, ces questions d'endométriose, et effectivement, ça peut empêcher ou compliquer le fait d'avoir un enfant.
À l'endométriose est une des raisons de l'infertilité. Donc, un des examens pour pouvoir faire ce diagnostic d'endométriose, c'est celui que Fatou a eu avant Natacha, c'est-à-dire une célioscopie dont j'expliquais la pratique tout à l'heure. Quand on a une optique lumineuse au niveau des organes, eh bien on peut constater ou non cette endométriose, et c'est un vrai facteur d'infertilité. J'avais juste une petite réflexion à
par
faire
rapport au traitement
à
qu'elle
Natacha.
Reçoit. Oui,
c'est ça. C'est peut-être faut-il qu'elle ne s'affole pas trop, puisque elle nous dit qu'elle a un souhait d'enfant depuis 2 ans, et pendant cette période il y a eu un traitement par luténil, c'est de la progestérone. Si c'était 3 semaines dans le mois, elle ne pouvait pas être enceinte, ça peut avoir un effet contraceptif, et la DEPAL est une pilule contraceptive. Pour les douleurs, ça marche très très bien, mais effectivement, pour la fertilité, il n'est pas possible d'avoir un enfant.
C'est donc... ça, en fait, clairement, ces traitements-là, qui sont tout à fait justifiés, oui, d'ailleurs, pour atténuer la douleur liée à l'endométriose, mmh, mais du coup, c'est aussi, en fait, comme une pilule, ça empêche d'avoir un enfant.
C'est une pilule, c'est et une ça, pilule. Ça empêche d'avoir un enfant, puisque ça met les ovaires au repos, donc il n'y
c'est
a
pour ça
pas ces
mal,
phénomènes
d'ailleurs
de douleur, mais il n'y a pas non plus de fertilité. C'est le grand problème de l'endométriose. Faut-il privilégier le traitement de la douleur, ou bien privilégier la fertilité, sachant que pendant la grossesse, les douleurs liées à l'endométriose vont s'atténuer. Mais peut-être n'est-ce pas le jour de s'étendre trop sur l'endométriose.
D'accord, tout à fait. Non, mais voilà. ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que ça fait... En fait, du coup, ce qu'il faut que Natacha réalise, c'est que ça fait pas 2 ans qu'elle cherche à avoir un enfant.
Si c'était effectivement pendant cette période, elle doit être complètement rassurée, voilà, et malgré tout tentée. Et puis,
il y a quand même
s'adresser au gynécologue qui a parlé d'endométriose pour que ce gynécologue lui propose une célioscopie qui sera un des examens fondamentaux dans son histoire.
Juste quand même une question encore pour Natacha. Si on découvre vraiment donc une endométriose, qu'est-ce qu'il y a comme moyen après pour quand même concevoir un enfant? Est-ce qu'on retourne à la fécondation in vitro dont vous nous avez parlé avec Fatou?
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on fait la célioscopie, on fait le diagnostic, mais on peut en même temps faire le traitement. C'est-à-dire qu'on introduit au niveau du ventre un certain nombre d'instruments, petits, enfin très longs mais très fins, et que l'on peut aller détruire par électricité les lésions d'endométriose. Et donc, le traitement chirurgical peut être extrêmement important, sauf si les trompes sont bouchées, ça ne suffira pas, sauf s'il y a éventuellement des kystes au niveau des ovaires. Et la dernière chose que je voulais dire à Natacha, qui se désolait qu'il n'y ait pas d'IRM à proximité, attention, l'IRM est ici aussi à Paris, un examen de dernier recours. La simple échographie, qui est maintenant extrêmement performante, donne la plupart du temps les mêmes résultats. Donc, ne vous désolez pas, Natacha, de ne pas avoir d'IRM.
Bon courage. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. On a au téléphone le docteur Monique Onomojong, qui est gynécologue à Douala, au Cameroun. Docteur Monique Onomojong, bonjour.
Bonjour, Clérédon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence des problèmes d'infertilité au Cameroun?
Non, j'ai pas de chiffres vraiment réels, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un motif extrêmement fréquent de consultation. Moi, dans ma consultation, généralement, c'est la deuxième cause de consultation après la grossesse. Donc, ça veut dire que tout au long de la journée, je vois énormément de couples qui ont ce problème.
Et alors, qu'est-ce que vous arrivez à leur proposer? Qu'est-ce qui est disponible en termes de PMA au Cameroun?
Alors, au Cameroun, en particulier à Douala, nous avons la chance d'avoir un excellent plateau technique, tant pour les bilans. On peut faire tous les bilans, y compris les bilans hormonaux possibles. On peut faire des célioscopies. On a deux centres de PMA, donc on peut faire des inséminations, on peut faire des fécondations in vitro, on peut faire des ICSI.
Les ICSI, c'est ce dont nous parlait Sylvie Eppelboin, c'est ça, avec l'introduction du spermatozoïde directement dans l'ovule, c'est ça ?
Exactement, et j'en profite pour vous saluer, ma chère collègue.
J'ai bien compris, ouf, parce que c'est pas toujours très simple. Docteur Monique Onomojon, il y a une question que se posait le docteur Sylvie Eppelboin tout à l'heure. Vous dites qu'il y a deux centres de PMA, de fécondation in vitro à Douala. J'imagine que ce sont deux centres privés.
Oui, ce sont des centres privés, exactement. Pour l'instant, nous n'avons pas de centre au niveau de l'hôpital public.
Est-ce qu'il y a des projets là-dessus ou pas ?
Oui, il y a des projets, mais pour l'instant, qui ne se sont pas encore concrétisés. Bon, je pense que ça pourra certainement arriver dans un futur plus ou moins proche.
Parce que la grande question qui se pose, c'est celle du coût. Finalement,
de
avoir
l'accès.
Ben oui, de l'accès et de l'accès financier. Alors l'accès géographique, hein, parce que vous nous dites deux centres, mais je pense qu'ils sont effectivement tous les deux à Douala et ce sont les seuls du Cameroun. Il n'y en a pas à Yaoundé.
Pour l'instant, non.
C'est ça.
Pour l'instant, non. Donc les deux centres sont à Douala. Donc c'est vrai que ben, effectivement, il faut que les patientes se déplacent. Il faut que les patientes payent. Bien qu'au niveau donc de ces centres, moi je travaille au niveau du centre qui se situe à la clinique de l'aéroport. Et là, on essaye d'avoir des prix quand même relativement accessibles, mais autant que c'est possible, parce que il y a le problème des médicaments. Les médicaments de stimulation de l'ovulation sont extrêmement chers. Nous, ils sont importés, donc ils coûtent encore plus cher que rendus en France, en fait. Et puis, il y a tout le matériel qu'on doit, tous les consommables qu'on doit se procurer. Donc, ce qu'on explique aux femmes, c'est que malheureusement, ça ne peut pas être gratuit, même si on essaye de faire les prix les plus soft possibles.
Et vous arrivez à quel prix à peu près ? Parce qu'on a eu un message d'un auditeur qui est à New York, qui a des difficultés aussi pour attendre un enfant. On lui a dit aux USA, ça coûte à peu près 22 000 dollars d'avoir recours à la fécondation in vitro. Alors, Sylvie Eppelboin me dit non. Ça coûte combien en France ? Parce que le problème, c'est que c'est remboursé par la Sécu en France, donc on a du mal à savoir le prix.
Non, je pensais aux États-Unis, il y a quand même d'excellents centres qui proposent, ce sont des sommes énormes, mais entre 7 000 et 8 000 dollars.
Ah oui, donc ça peut être moins cher 22 000, que 22 000. On lui dira à notre auditeur qui est à New York, ça peut être moins. Voilà. Et vous, en France ?
En France, au point de vue technique, mais je pense maintenant qu'il y a un calcul qui est avec les traitements, c'est aux alentours de 2 000-2 500 euros. Environ, hein, je peux me tromper.
Parce que vous avez des patients étrangers qui viennent, qui ont recours à la fécondation in vitro en France, hein. Donc c'est pour ça que vous connaissez à peu près. Donc on arrive à ce prix-là. Et vous arrivez à combien, docteur Monique Onomojong? À Douala,
vous avez... c'est à peu près. On est autour de, c'est ça. Ça correspond à 1,5 million, 2 millions de francs CFA. Donc ça correspond à 2 500 à 3 000 euros.
Donc
ça correspond à ça. Et je voudrais dire par rapport aux patients des États-Unis que justement, nous avons une grande communauté camerounaise qui vit aux États-Unis et qu'un certain nombre vient faire sa fécondation in vitro au Cameroun parce que c'est très cher aux États-Unis.
Et est-ce que vous avez de bons résultats ?
Écoutez, oui, donc on fait des statistiques régulièrement.
Oui, j'imagine.
Donc évidemment, c'est en fonction de la cause, en fonction de l'âge des couples. En moyenne, chez des femmes jeunes, on peut dire qu'on est à peu près à 20-25% de taux de grossesse par tentative. Et puis après, ben, ça dépend effectivement quand les femmes viennent nous voir tardivement, parce qu'on a malheureusement pas beaucoup de femmes jeunes par rapport aux femmes qui ont déjà plus de 38 ans, qui viennent nous voir. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer, que les couples doivent venir tôt consulter, parce qu'on a beaucoup de femmes qui pensent que c'est une méthode miracle et qu'elles peuvent attendre et qu'à 40 ans, on va leur faire la fécondation in vitro et que ça va marcher. Malheureusement, c'est pas le cas. Et donc on a beaucoup de ces couples-là où la femme est déjà un petit peu âgée et là effectivement les résultats sont très mauvais. Hein.
Vous aviez une question à poser, docteur Sylvie Eppelboin.
Oui, je suis ravie de pouvoir dialoguer avec vous. D'abord, je voulais témoigner de la qualité effectivement des résultats dans les centres camerounais. Nous, on a un certain nombre de couples qui viennent notamment du Cameroun et qui ignorent ces centres et à qui on conseille d'arrêter de venir en France en payant et la simplicité de la réalisation sur place. Et je pense que les centres, les différents centres africains ont encore tout un travail de lobbying à faire pour que...
Pour faire connaître
et faire confiance. Voilà, donc ça je voulais en témoigner. J'avais une question à vous poser qui est toujours au centre de nos débats quand nous discutons avec nos collègues africains qui font de la fécondation in vitro dans les différents pays où elle existe, c'est cette difficulté, étant donné l'argument financier, puisque les gens payent, à faire accepter le transfert d'un nombre d'embryons réduit. Vous savez qu'en Europe, à l'heure actuelle, on a la politique du transfert d'un embryon unique jusqu'à 35-36 ans et deux embryons maximum ensuite.
Et qu'on comprenne bien, je vous interroge juste là-dessus, c'est pour éviter les grossesses gémellaires qui sont de toutes les manières plus compliquées.
Pour éviter les grossesses gémellaires plus compliquées, avec 5 fois plus de prématurité ou de bébés de petit poids de naissance, mais surtout les grossesses triples qui sont à l'origine de fausses couches tardives, surtout chez des femmes qui ont déjà eu des avortements comme l'une de nos auditrices précédemment et dont l'utérus a été abîmé. Et c'est vrai que nos collègues nous disent très souvent qu'ils ont beaucoup de mal à refuser de transférer 3 embryons, voire parfois plus, parce que les gens insistent, parce qu'ils ont payé et qu'ils ne payeront pas 2 fois. Et je voulais savoir auprès de Monique Onoyomong si c'était encore, si on arrivait maintenant à les convaincre un petit peu plus et
alors, comment
évoluait cette prévention des grossesses triples qui sont dramatiques pour les gens.
Effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est difficile, mais on essaie de les convaincre. C'est d'autant plus difficile que pour les gens ici, le fait d'avoir une grossesse multiple, c'est-à-dire double ou triple, ne leur cause pas de soucis.
Bien sûr.
Parce que au contraire, ils se disent que c'est plutôt rentable, ils ont payé une fécondation in vitro, ils vont avoir 2 ou 3 enfants. Donc, c'est notre rôle de leur expliquer que malheureusement, il y a beaucoup de pertes fœtales et de bébés, et surtout dans notre contexte où la gestion des prématurés est extrêmement complexe, encore plus complexe qu'en Europe, ce qui fait qu'on a beaucoup de pertes de bébés dans ce cas de figure. On essaye de les persuader. Et aussi, nous faisons une congélation d'embryons. Donc, on leur explique qu'on peut congeler. Et quand on leur replace les embryons congelés, c'est vraiment à moindre coût. Donc, généralement, on arrive quand même à les convaincre.
Et ça, juste un dernier mot là-dessus, docteur Sylvie Appelbois. On a beaucoup évolué parce qu'on a vu beaucoup de grossesses plus que gémellaires, des triplés, des quadruplés. Oui. Et ça, quand même, normalement, on ne le voit plus en Occident maintenant. Enfin, en France, en tout cas.
Non, les grossesses triples sont devenues absolument rares ici, mais c'est vrai que le taux de grossesses gémellaires a chuté. Alors, on retrouve aussi, il n'y a pas qu'en Afrique, chez nous aussi, l'idée que
cette
fascination, deux d'un coup, qui vont venir penser des années de souffrance et d'infertilité. Et dans certains cas, pourquoi pas? Et c'est vrai que dans certaines régions d'Afrique où la gémelléité naturelle et d'une fréquence très importante, beaucoup plus qu'en Europe, on comprend ce désir des gens. Je parlais plutôt des grossesses de haut rang et je vous remercie beaucoup de votre réponse.
Merci beaucoup, docteur Monique Onomojong. Je rappelle que vous êtes gynécologue à Douala, au Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, le docteur Sylvie Appelbois, qui est médecin de la reproduction au sein du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard à Paris, répond à toutes vos questions. On a Augustin qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Augustin, bonjour.
Bonjour.
Vous écoute, Augustin, vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Oui, bien sûr, je vous écoute.
Là, c'est nous qui allons vous écouter, plutôt. Racontez-nous ce qui vous arrive.
Bon, moi, depuis 2012, je me suis mariée, j'ai 29 ans, et jusqu'à là, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Et nous sommes rendus chez un gynécologue obstétricien de la Somme. Il a demandé à ma femme de passer la radio spéciale de la Somme. Et il avait dit à la suite qu'elle avait une trompe gauche bouchée suite à une infection. Et cela a été corrigé depuis juin dernier. Et récemment, en décembre, il m'a demandé de faire un test de thermogramme et qui a relevé que j'avais une mobilité de 30% à la première heure. Le médecin m'a dit que cela ça n'aurait pas trop d'influence sur ma fertilité. Elle m'avait juste fait juste deux boîtes de pro-fertilité. Mais jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui. Alors, je demande si une faible mobilité est-elle le synonyme d'infertilité? Une seconde question, aurais-je quand même la chance d'avoir un enfant? Alors, sinon, existe-t-il un médicament pour traiter ces troubles?
Alors Augustin, je vais me permettre de répéter un peu vos questions, parce que la ligne téléphonique n'était pas bonne. Vous avez 22 ans, depuis 2012 vous n'arrivez pas... 29 ans, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit 22? 29, vous avez raison. Depuis 2012, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Votre femme a un problème de trompe gauche bouchée suite à une infection. Je vous dis que ça a été corrigé en juin dernier. J'imagine qu'il y a eu une intervention. Et on vous a fait un spermogramme qui a montré une mobilité de 30% des spermatozoïdes à la première heure. Mais le médecin vous a dit que ça n'avait pas forcément trop d'influence sur votre fertilité. Vous vous demandez un peu justement quel est l'impact sur la fertilité. Est-ce que vous aurez une chance d'avoir un enfant? Est-ce qu'il y a un médicament qui résout ce problème de mobilité des spermatozoïdes. Alors, expliquez-nous, docteur Eppelbois.
Bonjour monsieur, alors à 29 ans, vous avez toutes les chances devant vous, donc d'abord un message d'espoir. Depuis 2012, donc ça fait 2 ans, vous nous dites quand même une chose qui est très importante, c'est que votre femme a une trompe bouchée suite à une infection. Malheureusement, quand il y a une infection au niveau des trompes, il peut y avoir une trompe bouchée et l'autre qui ne l'est pas mais qui est altérée. Donc on retient quand même ce problème-là comme problème majeur de votre problème d'infertilité de couple.
Mais apparemment, on a débouché. On peut les déboucher.
Quand il y a un phénomène inflammatoire, bien sûr, ça peut être débouché, mais
ça marche pas toujours après.
Ça ne marche pas toujours après. Alors reste à savoir s'il n'y a pas un problème d'ovulation. Bon, voilà. Mais je vais répondre
au spermogramme.
Au spermogramme. Pour nous, dans les normes internationales, 30% de mobilité des spermatozoïdes à la première heure est un chiffre strictement normal. Donc, il n'y a pas besoin de profertile ou de quoi sais-je. De toute façon, ce sont en général des vitamines, des oligo-éléments, un petit peu de zinc, des antioxydants ou autres, qui peuvent être utiles dans certains cas, mais qui ne sont pas un traitement en soi. Ce sont ce qu'on appelle des adjuvants, c'est-à-dire quelque chose qui aide un petit peu, mais ce ne sont pas des traitements.
Ça rend pas plus de mobilité aux spermatozoïdes, mais là, en l'occurrence, ils sont très mobiles.
30%, c'est normal. Et donc, il est normal que dans le sperme, tous les spermatozoïdes ne soient pas mobiles ou normaux. Vous avez dû voir dans votre spermogramme qu'on a le nombre, la mobilité et les formes typiques. Donc j'en profite pour expliquer à tous les auditeurs les résultats d'un spermogramme. Il y a le volume de l'éjaculat qui doit être compris en moyenne entre 2 et 5 millilitres. Il y a le nombre de spermatozoïdes qui est normal entre 18 et 200 millions. Par millilitre. Donc là, vous ne nous mettez pas le nombre. Je vais vous expliquer en quoi c'est important. Il y a la mobilité qui doit être à la première heure au-dessus de 25%. Et il y a le nombre de formes typiques qui doit être globalement au-dessus de 20%. Donc, 30%, c'est tout à fait normal puisque dans le liquide séminal, au moment du recueil de sperme, il y a 3 mois de production de spermatozoïdes, donc il y a des un peu trop jeunes, des trop vieux, et puis ceux qui sont bons. Donc il y a un pourcentage relativement limité de spermatozoïdes performants, c'est quelque chose de
normal.
Et il va y avoir une différence de 30% de spermatozoïdes mobiles sur 1 million au total ou sur 200 millions. Donc, le nombre de spermatozoïdes qui sont susceptibles de rejoindre leur petit camarade ovule au niveau des trompes est variable suivant les autres paramètres aussi, mais également la normalité de ces spermatozoïdes mobiles. Donc, il faut peut-être un petit peu plus pousser sur cet examen du spermogramme en faisant l'examen suivant, qu'on appelle un test de sélection ou de migration des spermatozoïdes, où l'on voit au bout d'un lavage et d'une migration des spermatozoïdes après centrifugation, combien il reste de spermatozoïdes qui sont en fait les plus performants. Mais vos caractéristiques de sperme ne me semblent absolument pas affolantes. Il faut peut-être reprendre la problématique générale du couple et en tout cas, si vous deviez en arriver là, insémination intra-utérine ou fécondation in vitro devrait pouvoir résoudre votre problème.
Merci beaucoup, Augustin. Je voulais vous faire part d'une question qu'on a reçue, enfin plutôt pas d'une question, une remarque de Christian, qui nous dit « Je suis technicien supérieur en analyse biomédicale à l'hôpital régional au Tchad. Quand je reçois un examen de spermogramme et le résultat indique une possibilité d'infertilité, c'est-à-dire une azoospermie, j'imagine l'état d'esprit de mon patient dans notre contexte africain où l'enfant détermine la suite du foyer conjugal. Et oui, c'est quelque chose de... Quand il y a une azoospermie, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes, c'est ça ?
Azoospermie, c'est absence totale de spermatozoïdes. Je trouve cette question de Christian extrêmement intéressante parce qu'il est normal aussi que les soignants se posent des questions. C'est la difficile gestion de l'annonce en médecine. L'annonce d'un cancer, l'annonce d'une maladie ou l'annonce de « Monsieur, vous êtes stérile ». N'oublions pas qu'on annonce sans état d'âme aux femmes qu'elles ont les trompes bouchées. Donc là, je reprends un petit peu le parallèle. Alors, c'est probablement pas Christian qui va lui-même faire l'annonce. Alors, il y a plusieurs réflexions qui viennent rapidement. Premièrement, dans beaucoup de pays, je ne sais pas du tout comment ça se passe au Tchad, il y a un résultat d'examen qui est envoyé à la personne. Effectivement, recevoir un examen de ce genre, ça peut être absolument destructeur quand on est tout seul chez soi. Donc, peut-être plutôt dire, allez voir votre médecin, il va vous expliquer les résultats de l'examen. Ça, c'est une première chose.
Comment on fait en France? On l'envoie comme ça ou...
Oui, malheureusement. Par exemple, on n'a pas le droit d'envoyer des résultats d'examen génétique, mais on envoie le spermogramme.
Donc, quand ils arrivent en consultation chez vous, ça veut dire qu'ils savent déjà?
Et ils n'ont pas toujours compris, mais heureusement, il y a des tas de biais, c'est-à-dire que les bons laboratoires de biologie de la reproduction, quand ils ont une azoospermie, peuvent se mettre en contact avec le médecin prescripteur. Et bien sûr, c'est ce qu'il faut faire.
Pour pas envoyer de façon trop brutale.
Et on attend le rendez-vous d'après en disant « j'ai reçu votre examen » et voilà. Donc, annonce qu'il n'y a pas de spermatozoïdes. Qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, qu'il a pu y avoir une maladie intercurrente, une grippe, une grosse fièvre, quelque chose qui a complètement ratatiné les spermatozoïdes, puisque je vous disais que c'était 3 mois de production, et donc toujours refaire un deuxième examen qui peut être une bonne surprise. D'abord,
ça n'est pas forcément transitoire. D'accord.
Bien sûr. Si c'est confirmé, à ce moment-là, ce sont des examens complémentaires et qui conduiront dans certains pays à la possibilité d'aller rechercher les spermatozoïdes dans les testicules pour faire une fécondation in vitro par micro-injection ou ICSI avec les spermatozoïdes récupérés chirurgicalement ou bien ailleurs où ça n'existe pas à une insémination artificielle avec sperme de donneur. Mais c'est le début d'une autre histoire. Mais votre question est une question extrêmement intéressante.
On va prendre une dernière question avec Stéphane qui nous appelle de Libreville au Gabon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Stéphane.
Oui. J'ai eu un petit problème de mycose au niveau des cuisses, de l'hémopathie génitale. Bon, et après, je me suis fait soigner, mais j'ai consulté, le médecin m'a prescrit bon cipo que j'ai pris. Et après, il m'a aussi ajouté le curam 1 gramme et il m'a demandé d'appliquer le mycostère dessus. J'ai appliqué et tout, c'est terminé. C'est bien passé. Mais j'ai attendu un mois après cela pour entretenir les relations sexuelles. Bon, maintenant, ma copine me dit qu'elle est grossesse. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça peut avoir de l'impact sur mon spermogramme, sur mon spermatozoïde ou pas? Est-ce que ma copine peut avoir des problèmes
de fertilité après et puis pour la grossesse? Docteur Sylvie Pelbois.
Alors, je trouve que vous avez eu la très bonne attitude d'attendre un mois avant d'avoir des rapports. Il peut y avoir des infections qui n'ont pas été totalement traitées, qui reviennent. En tout cas, le principal problème, c'est la fertilité immédiate. Donc, ça n'a pas été le cas puisque votre amie est enceinte. Pendant la grossesse, normalement, au niveau du col de l'utérus, il y a un filtre, entre guillemets, qui est bouché par la glaire cervicale au niveau du col. Donc, vos éventuels germes ne peuvent pas passer. Ce n'est peut-être pas suffisant de penser cela. S'il y a le moindre picotement ou le moindre signe qui revient, premièrement, il faut que vous refassiez un prélèvement. Votre épouse doit avoir un prélèvement vaginal pour vérifier qu'elle-même n'a pas hérité de vos germes. Et dans le doute, ayez des rapports préserver avec des préservatifs, protéger, pardon, avec des préservatifs, de façon à ce qu'il n'y ait pas une infection qui puisse nuire à l'enfant et entraîner un accouchement prématuré. Et il n'est pas du tout question, à l'heure actuelle, d'un quelconque retentissement sur la fertilité ultérieure, sauf si votre infection se poursuivrait, mais ça serait une histoire d'après.
Merci beaucoup pour cette question, Stéphane. Désolé pour Nafissatou qui attend en ligne, on va pas avoir le temps, mais j'ai quelques quand même questions qu'on a eues sur Facebook que je voulais vous poser, docteur Epelboin. Est-ce que la masturbation ou les rapports trop fréquents peuvent entraîner une infertilité?
Ni l'un ni l'autre. Premièrement, la masturbation, je ne sais pas si notre auditeur parle de la masturbation féminine ou masculine, les deux existants. Donc la masturbation féminine, non. La masturbation masculine, non. Sauf si il y avait éventuellement une faiblesse des caractéristiques du sperme dont nous avons parlé auparavant. Et là, il peut être intéressant d'avoir des rapports un petit peu espacés ou d'avoir une éjaculation un petit peu espacée. Donc il vaut mieux à ce moment-là privilégier les rapports à la masturbation. Les rapports trop fréquents, non. Sauf dans le cas que je viens de vous préciser, il n'y a pas de meilleure façon pour une femme d'être enceinte que d'avoir des rapports fréquents, notamment autour de l'ovulation.
Autre question, est-ce que le fait de prendre des contraceptifs à long terme peut provoquer une infertilité?
C'est une question plus complexe, je vais essayer d'y répondre rapidement.
Oui, vous avez 15 secondes pour y répondre.
Très bien. S'il y a un problème au niveau des cycles et de l'ovulation, au moment où la contraception commence, la contraception bloque tout, et donc quand on l'arrête, on se retrouve dans la même problématique non aggravée. Si les cycles étaient normaux au moment de prendre la contraception, eh bien la fertilité est restaurée dès le premier cycle. Alors attention, si vous ne souhaitiez pas une grossesse le premier cycle, cela peut arriver.
Mais très vite. Merci beaucoup, docteur Sylvie Epelboin. Les auditeurs ont été très très nombreux à appeler. Il faudra refaire des émissions là-dessus. Demain, on parlera des liens entre apnée du sommeil et maladies cardiovasculaires. À demain.